Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents si nombreux ce soir pour accueillir une jeune auteure, quelqu'un qui fait sa première rencontre. Donc c'est un moment important dans la vie d'un auteur. Elle s'en souviendra dans 20 ou 30 ans, ça. Cette salle, cette station Ozone remplie d'un public fébrile. Voilà. Et donc j'ai le plaisir d'être aussi le premier à l'interroger. J'accueille donc ce soir Julie Duprat, qui nous propose un livre, un beau livre, un livre à grand format. Vous voyez, elle commence d'entrée par un grand livre. Un livre qui s'intitule « Bordeaux Métis, esclave et affranchi du 18e siècle à l'Empire » aux éditions Mola. Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà. Donc, je suis ravi de l'accueillir pour parler de ce livre qui est sorti il y a une petite semaine. Hein. Donc, on inaugure la vie de ce livre et on lui souhaite un beau destin. Alors, Julie, qui, comme vous le voyez, est une jeune femme. Hein. C'est même surprenant. Hein, parce que se dire comment on peut être aussi jeune et travailler autant, eh bien, c'est possible. Hein. Julie nous offre donc un très beau livre, un livre intense, dans une collection qui est dirigée par Michel Figeac, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais on remercie, qui est un grand historien bordelais, quelqu'un qui fait beaucoup pour les études normalement 18e. Dans une collection qui a été initiée il y a quelques temps, aux éditions Mola, avec un livre qui s'appelait « Mémoire noire, histoire de l'esclavage », un beau livre dirigé par Caroline Lemao, je pense, c'est ça, et qui indique que les éditions Mola se lancent dans l'exploration assez méthodique d'une période finalement assez peu exploitée, assez peu visitée par les historiens, hein, qui est l'histoire de la population noire dans notre région. Voilà. Alors, le livre que nous voyons là est le fruit de longues années de recherche. Alors, c'est la formule, on dit. On a passé de longues années de recherche. Alors, on se dit qu'elle a dû commencer à 15 ans, mais pas du tout. Hein, parce que les recherches, en fait, on ne le sait pas, mais ça entretient, en fait. Hein. Plus vous recherchez, plus vous découvrez. Alors, Julie est ce qu'on appelle en France une chartiste. Voilà. Elle sort de l'école des chartes. C'est une école prestigieuse. Je crois que Charles Péguy a dû être un chartiste. On a quelques grands noms qui ont fait l'école des chartes, une école mystérieuse. Vous en croiserez peut-être dans la rue, dans des archives municipales ou départementales, voilà. Et Julie est désormais à un métier, désormais, elle a un vrai métier. Et je crois que vous êtes, alors j'ai noté parce que c'est un peu long, coordinatrice de la valorisation des documents numériques à la BPI.
Exactement. Voilà. Donc la BPI, c'est une bibliothèque publique à Paris, qui est assez connue. Et moi, je suis conservatrice de bibliothèque. C'est mon tout premier poste. Pour plus très longtemps d'ailleurs, puisque je vais changer de poste.
Ah, c'est le début
quelques
aussi.
Semaines, vous avez
le début d'une carrière. Alors,
exactement.
Voilà. Donc, un archiviste, ça mène aussi à la rencontre du public, et notamment dans les bibliothèques.
Exactement. En fait, l'école des chartes nous permet d'obtenir un diplôme qui s'appelle le diplôme d'archiviste paléographe. Sous ce nom très barbare, en fait, c'est juste pour attester du fait qu'on a suivi le cursus de l'école des chartes et que l'on sait déchiffrer et transcrire des archives, et également qu'on a soutenu une thèse à l'École nationale des chartes, qui est une école qui fonctionne sur le même statut que l'ENS, par exemple. Et à l'issue de cette scolarité-là, on doit quand même avoir un métier, parce que sinon on ne mange pas. Et donc, plusieurs d'entre nous travaillons dans les archives, dans les bibliothèques, en grande majorité. Voilà.
Alors, précisément, vous avez fait une thèse. Une thèse. Alors, une thèse qui est bien entendu très proche de ce dont nous allons parler. Pareil, je vais citer le nom d'une thèse, parce que c'est toujours impressionnant, une thèse. Hein. Alors, elle s'appelle « Présence noire » au pluriel. Passage et intégration des gens de couleur à Bordeaux à la fin du 18e siècle. Voilà.
C'est ça.
On ne peut pas faire plus titre de thèse que ça. Alors, ma première question, elle est assez simple. Vous avez fait des études à l'école des chartes, vous aimez donc fouiller les vieux papiers. Peut-être que vous faisiez ça déjà toute petite, fouiller la correspondance de vos parents pour découvrir le secret de votre naissance, je ne sais. En tout cas, qu'est-ce qui vous a incité? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous êtes allé voir un directeur de recherche, vous avez dit « je m'intéresse à la présence noire en France ». Quel est le point de départ ?
En fait, c'était tout simplement une curiosité personnelle. Donc, à l'époque, j'étais en première année d'école des chartes et il nous fallait trouver un sujet de thèse. Donc, on a une année complète pour un peu fouiller et voir ce qui est faisable. Et juste par intérêt personnel, je me suis intéressée à la question des populations noires qui ont vécu en France au XVIIIe siècle. Et j'ai constaté qu'en fait, il y avait assez peu de choses publiées sur la question. Il y avait un ouvrage qui avait été publié par Éric Noël il y a 10 ans de ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il y avait assez peu de choses, et notamment assez peu de choses sur la région dont je suis originaire, c'est-à-dire la région du Sud-Ouest. Et je le savais qu'il y avait des choses, notamment parce que j'avais fait un voyage en Angleterre, où là-bas, la question est beaucoup mieux prise en charge, notamment dans les anciens ports négriers comme à Bristol. Et donc, je savais que forcément, on est dans le même contexte temporel. Je savais qu'il y avait des choses à faire sur la question, mais je trouvais peu de choses pour juste me renseigner. Et donc, je me suis tournée vers Éric Noël, qui était à l'époque la personne la plus reconnue, qui l'est toujours d'ailleurs, en lui demandant ce qui était possible de faire toujours sur la question des populations noires vivant en métropole au XVIIIe siècle. Et c'est lui qui m'a orientée vers Bordeaux en disant c'est un port très très important à l'époque moderne, c'est le premier port français de l'époque, le premier port colonial. Il y a forcément plein de choses à trouver, mais personne n'a encore pris le temps de se pencher véritablement sur les archives. Et je pense que si vous vous en chargez, vous trouverez plein de choses. Et son intuition a été très juste. Et d'ailleurs, cette piste avait déjà été explorée par une autre historienne antillaise qui s'appelle Dominique Rogers, qui avait fait un article, en fait, qui esquissait beaucoup d'hypothèses qui se sont retrouvées étayées lorsque moi, j'ai eu accès à plus d'archives et que j'ai eu plus de temps aussi à consacrer à cette recherche-là.
Alors, ce qui vous a intéressé, c'était aussi l'idée d'aller dans un territoire où personne n'était allé. Hein, c'est votre côté peut-être un peu exploratrice, hein, dans les documents. Alors, comment expliquer que les Français ont tellement de retard un peu sur ce domaine-là? Comment ça se fait que... Est-ce que les Anglo-Saxons ont une autre sensibilité? Pourquoi il y a une inquiétude? Pourquoi on a ce retard-là? Est-ce que vous voulez, en enquêtant, est-ce que vous êtes posé la question?
Forcément, on se pose la question parce qu'on observe qu'il y a des œillères qui sont posées sur ces sujets-là. D'un point de vue purement scientifique, j'ai l'impression qu'en France, on avait un certain retard historiographique. Donc, l'historiographie, c'est un très vilain mot, juste pour désigner le fait de... En fait, d'étudier l'histoire. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, d'un point de vue historiographique, on s'est intéressé à ces questions-là plus tardivement, notamment à la question de la traite négrière, beaucoup plus tardivement que nos collègues anglo-saxons, et notamment les synthèses assez poussées et très avec beaucoup de sources ont été faites plus tardivement, plutôt dans les années 90. À Bordeaux, notamment, on a une thèse qui est vraiment essentielle, qui est la thèse d'Éric Seguera, qui a travaillé sur la traite négrière à Bordeaux. Mais il a fait ce travail-là vraiment plus tard que ce qui a pu être fait, par exemple, dans le milieu, dans le milieu anglophone. Donc je pense que c'est aussi un espèce de retard scientifique qui s'explique, je pense, parce que peut-être on n'avait pas la même population et qui fait qu'on a ignoré très largement ce sujet-là en se disant que ça ne nous intéressait pas, que ça ne nous concernait pas, parce que, notamment par rapport forcément au contexte américain, par exemple, la population noire en France est moins nombreuse que la population afro-américaine, en comparaison d'un point de vue purement proportionnel. Donc je pense que le sujet a mis plus de temps à venir sur la table pour un peu toutes ces raisons-là. Mais je pense qu'il est en revanche tout à fait légitime, parce que c'est pas parce qu'on a mis du temps à s'intéresser à un sujet que ça veut dire qu'il n'a pas sa place sur le débat public. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire qu'on parle de ces questions-là. Je sens que ça résonne beaucoup quand je présente mon sujet de thèse. Je sens que ça résonne beaucoup aussi avec des questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Et je pense que c'est très important de montrer que l'immigration noire en France, elle n'a pas commencé uniquement avec la décolonisation ou uniquement au XXe siècle, mais que c'est vraiment une présence qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Et qu'en fait, il y a toujours eu des personnes identifiées comme étant de couleur parmi nos populations, en plus ou moins grand nombre, mais qu'elles ont toujours été là. Et donc, c'est important aussi de voir de rappeler ça, tout simplement, parce que je pense que ça permet de vivre aussi différemment.
Oui, alors vous abordez un thème qui, malgré tout, l'historien s'intéresse à ce qui est visible, et qu'il y a beaucoup d'invisibilité dans ce domaine-là, qui est que, somme toute, un historien peut se dire pourquoi étudier quelque chose sur lequel on a peu de choses. Alors, est-ce que vous avez eu très vite le sentiment que... effectivement, il y avait un problème de matériaux, de représentation, du fait que pourquoi c'était aussi peu représenté, pourquoi c'était aussi peu évoqué. Alors, on va évoquer ça. La présence noire dans notre région, vous la faites remonter à très loin.
Oui.
C'est-à-dire que, a priori, il y en a toujours eu.
Oui. Donc, pour l'époque moderne, en tout cas, la première mention qui est faite, c'est en 1571, donc c'est au XVIe siècle. Après, on sait que, par ailleurs, en Europe, il y a eu beaucoup en fait, de mouvements de population, tout au long déjà du Moyen-Âge, par exemple. Il y a récemment un livre qui est paru d'Olivette Othélé, qui revient en tout cas sur cette population afro-descendante dans l'Europe. Et elle montre bien que dès l'Antiquité, et tout au long du Moyen-Âge, et à l'époque moderne, on a déjà des mouvements de population, des personnes qui soit voyagent en pèlerinage, des personnes qui vont être esclaves. C'est juste que ça reste assez ponctuel. Et c'est vraiment au moment de l'époque moderne qu'on a des mouvements de population qui sont beaucoup plus importants et qu'on assiste vraiment à une première immigration massive de personnes noires ou métisses en provenance du continent africain ou des Antilles, par exemple.
On a quitté la marginalité avec le passage d'individus pour se retrouver face à ce qu'on appelle une population. Mm-hmm. Et ce qui vous intéresse, c'est une population. Alors, on est toujours tenté de dire comment il faut chiffrer ça, Il faut chiffrer, évaluer. Alors, vous avancez des chiffres.
Oui.
C'est courageux. vous évaluez à combien de personnes, par exemple. Alors, vous avez le terme, il faut bien le préciser, le terme d'afro-descendant. Oui. Hein, pour vous, c'est important d'employer ce terme. Pourquoi ? Parce que ça, qu'est-ce que ça sous-entend, le mot afro-descendant ?
Alors, afro-descendant, c'est un terme qui permet de désigner à la fois les populations qui sont nées en Afrique et les populations qui ont des origines africaines, et en tout cas les populations qui sont identifiées comme ayant ces origines-là. C'est un terme qui permet de remplacer des termes un peu plus touchy qui étaient employés à l'époque par l'administration coloniale. Et donc moi, c'est un terme que je préfère utiliser dans mes travaux pour avoir une certaine neutralité dans le discours qu'il n'y a pas forcément dans les termes de l'époque.
Et ça vous permet surtout de toucher une population
Exactement.
Assez vaste.
Hein, c'est ouais. ça.
Alors, on parlait de chiffres. Moi, quand, en lisant le livre, je me suis dit, bon, elle aborde un chiffre. Alors, ça concerne combien d'individus à peu près ?
Alors, ce chiffre-là, je l'ai avancé, mais il est important aussi de savoir que ce chiffre a été étayé par d'autres historiens, notamment parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour justement évaluer très quantitativement le nombre de personnes noires et métisses qui ont vécu en France. Et c'est notamment un projet collectif qui a été mené pendant plusieurs années, dirigé par Éric Noël, une nouvelle fois, qui a abouti à la rédaction de plusieurs dictionnaires qui recensent toutes les personnes de couleur qui ont été repérées dans les archives en métropole. Et donc, sur Bordeaux plus spécifiquement, on arrive globalement à plus de 5 500, 6 000 personnes entre 1750 et 1807. C'est des chiffres qui sont amenés à être grossis, enfin à grossir, parce que notamment on est assez sûr pour le 18e siècle, mais pour le début du 19e, il y a encore beaucoup de recherches à faire et beaucoup d'archives à fouiller. Et je suis sûre que c'est un chiffre qu'on n'a pas fini en tout cas juste de faire augmenter. Donc à l'heure actuelle, entre 5 000 et 6 000 personnes pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
D'accord, donc
pour Bordeaux seulement.
C'est un minimum. Voilà.
C'est un minimum pour Bordeaux, et pour l'ensemble du territoire français, on est plutôt à 20 000 personnes.
D'accord. Ce qui veut dire que Bordeaux a quand même un pourcentage très important par rapport à l'ensemble du territoire.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, Bordeaux, ça, c'est la troisième ville en termes de population qui a accueilli le plus de personnes noires et métisses. Les premiers, c'est Nantes et Paris, de manière assez logique.
Assez logique, ouais.
Assez logique. Mais Bordeaux est vraiment... Et vraiment, du coup, c'est la troisième ville en quantité de population.
Alors, vous l'avez laissé entendre, les historiens ont besoin de s'appuyer sur des documents. Ils ne peuvent pas délirer, on leur demande des sources. Hein. Alors, vous, précisément, quel a été votre angle d'attaque en vous disant, voilà, je m'intéressais à une population vous êtes archiviste, en tout cas, vous êtes archiviste paléographe, donc vous avez l'habitude d'aller chercher des documents que personne d'autre que vous ne comprend. Quelle a été votre méthode ? Vous avez dit, comment je vais faire pour étudier cette population ? Comment vous y êtes pris ? Oui.
Alors, en fait, ce qui est effectivement important de rappeler, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a assez peu d'archives qui sont vraiment dédiées à ces populations-là. On a deux premiers points de départ, qui sont deux recensements, qui ont été effectués par l'administration française. Le premier en 1777, et le deuxième en 1807. Et ces deux recensements qui visaient spécifiquement les populations identifiées comme étant de couleur, donc les personnes noires et les personnes métisses. Évidemment, ces recensements, ils ne suffisent pas, parce qu'ils nous donnent juste une photographie durant une année, et donc ce n'est pas suffisant pour comprendre toute la complexité de la vie de ces populations-là sur 50 ans. Et donc du coup, moi, ma démarche, ça a tout d'abord été de revenir très concrètement au registre de passagers. Donc on conserve pour Bordeaux une très très grande partie des registres de passagers qui arrivaient des Antilles à Bordeaux. Et donc ma démarche, ça a tout simplement été d'ouvrir tous ces registres-là, de tous les lire pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et de relever, dès qu'on avait une mention de couleur qui était faite, et de faire une première base de données comme ça de toutes les personnes noires et métisses qui voyageaient sur les navires bordelais. Ça a été une première base de données qui a permis de montrer que ça se quantifiait en milliers de personnes. Et à partir de là, je me suis intéressée plus spécifiquement aux archives produites à Bordeaux même, en tout cas produites par des personnes qui vivent au quotidien à Bordeaux. Et vraiment, ma méthode, ça a été de lire des archives qui sont déjà très connues des historiens et qui ont déjà été analysées de plein de façons différentes, mais moi, de les analyser spécifiquement au prisme des populations noires et métisses, ce qui fait que j'ai lu plein d'archives très différentes, notamment les registres paroissiaux. Donc les registres paroissiaux, c'est l'ancêtre de l'état civil. C'est là où on enregistre les décès, les naissances, les mariages.
Oui, c'était la seule source qu'on avait. Hein. L'état civil est une invention plutôt
récente. C'est ça. L'état civil, c'est une invention napoléonienne. Donc avant ça, on est vraiment sur les registres paroissiaux. Donc voilà, c'était la première étape. Après, j'ai aussi fait beaucoup de lectures de registres notariés qui, eux, sont très intéressants pour prendre conscience du quotidien, vraiment de manière plus qualitative de ces personnes-là, parce qu'on a des personnes qui font une démarche d'aller chez le notaire, qui sont accompagnées de proches, qui vont acheter une maison, passer un contrat de mariage, faire un testament. Donc on est vraiment là dans des choses très, très fines et qui permettent de saisir toute l'intimité de ces personnes-là. Donc ça, c'était une source également très précieuse. Une autre source que j'ai beaucoup aimé lire, c'était les journaux bordelais. Parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux, enfin que Bordeaux, à l'époque moderne, est une ville, enfin, est la ville de France qui a lancé, après Paris, le plus vite, un journal hebdomadaire puis quotidien qui permettait de renseigner la population sur tout un tas de choses, les événements politiques, l'arrivée de marchandises. Et puis aussi, il y avait toute une partie annonces, petites annonces pour trouver des métiers, enfin pour trouver un métier ou au contraire pour embaucher quelqu'un. Et moi, ma démarche, du coup, a été dans ces petites annonces de repérer une nouvelle fois toutes les personnes noires et métisses qui cherchaient un travail ou au contraire les personnes blanches qui cherchaient à embaucher des esclaves notamment. Et voilà, donc ça, c'était une autre source assez importante. Et puis, je dois en oublier certaines qui étaient plus ponctuelles. Mais en tout cas, voilà les trois principales qui m'ont permis de vraiment avoir une connaissance assez fine de la vie quotidienne de ces personnes.
Alors, c'est un travail de bénédictin, comme on dit. Hein. C'est, oui. D'accord, vous n'avez pas l'air d'y avoir perdu la vue, mais peut-être pas loin. Mais donc, c'est un travail intense qui oblige à regarder les documents les uns après les autres.
C'est ça.
Est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, qu'il a pu manquer pour vous certains types de documents, que cette population a échappé à d'autres archives qui permettent de connaître les autres populations?
Alors, je ne dis pas qu'elle a échappé à certains types d'archives, mais c'est plutôt moi qui, par manque de temps, n'ai pas pu dépouiller certaines archives, notamment les archives judiciaires. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette question-là. Et ça, c'est encore un champ complètement neuf où on trouverait beaucoup de choses. Après, il faut quand même souligner que ces archives, elles ont en soi des lacunes parce qu'elles sont tout le temps produites, quasiment tout le temps, produites par l'administration et par, en tout cas, l'élite dominante de la société. Et on entend très peu la voix des personnes qui sont mises en esclavage ou la voix des personnes qui sont affranchies. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'aussi, ces archives, elles sont écrites par une certaine catégorie de population qui porte un regard particulier sur les populations noires et métisses.
Par les dominants.
Exactement. Et donc, c'est pour ça aussi que des fois un peu frustrant, parce qu'on aimerait entendre les personnes noires et métisses parler, décrire leur quotidien. Et en fait, ça arrive très peu souvent. Et les rares fois où ça arrive, ça concerne des personnes qui ont déjà pu s'extraire de la situation d'esclavage, qui sont libres, qui ont pu souvent avoir une famille. C'est les rares cas où ça arrive. Où on les entend un petit peu parler, mais quand je dis qu'on les entend parler, c'est on les voit signer un contrat, mais on les entend pas prendre la parole en disant je pense ça. Elles font pas de biographie pour décrire ce qui leur arrivait dans leur vie, donc il faut aussi arriver à lire à travers les lignes des archives pour arriver à comprendre toute la complexité des relations qui se sont nouées à Bordeaux entre les populations noires et la population blanche.
On n'a pas d'archives de l'intime. Hein, à la différence d'autres populations, il n'y a pas de... Est-ce que vous avez tombé sur des journaux, des choses comme ça,
oui.
des échanges de correspondance?
Il y a assez peu de ce qu'on appelle le fort privé, c'est-à-dire de correspondance, de journaux intimes, etc. La seule chose sur laquelle je suis tombée, moi, c'est une lettre écrite par la belle-mère d'un hôtelier noir vivant à Bordeaux. Mais pareil, ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre-là. Et souvent, du coup, l'intime, on l'approche plutôt par les archives familiales. En tout cas, les moments où on vient déclarer sa famille, soit parce qu'on se marie, soit parce qu'on un enfant naît, soit parce qu'un enfant se marie. Et c'est à travers ces archives, les contrats de mariage notamment, les déclarations de baptême, qu'on va pouvoir, en tout cas, voir se mettre en place certaines cellules familiales, voir se mettre en place certains liens de parenté. Mais c'est vrai qu'on ne va pas savoir ce qui se passe au quotidien, ce qui s'est passé tel jour. Et voilà, il y a aussi tout un pont qui nous échappe, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est la frustration aussi de tout historien, c'est que les archives, elles sont toujours lacunaires. Elles nous présentent toujours qu'une certaine version de l'histoire. Et donc, il faut aussi faire avec lorsqu'on fait...
On y reviendra, mais parce que vous parlez beaucoup de gens, en fait, hein, dans le livre. On sent que même il y en a certains qui reviennent. Hein, et on sent qu'il y a ceux que vous aimez bien, etc. Mais vous avez fait des rencontres malgré tout, hein, et que finalement un vieux papier, c'est quelque chose qu'il faut faire parler, quoi. Il y a un côté un peu holmésien, Sherlock Holmes, c'est-à-dire que on va extraire d'un papier assez, enfin que nous on trouverait une austérité sans fin, et vous en extrayez quelque chose qui vous permet de raconter.
Hein. C'est ça.
Est-ce que je fais un petit écart, il y a une petite âme de romancière chez vous quand même.
Je sais pas si c'est une âme de romancier chez tous les historiens. Moi, c'est en tout cas dans la manière dont j'envisage l'histoire, c'est vrai que forcément, en fait, quand on est face aux archives et que ce qu'on étudie, c'est la vie quotidienne des gens, forcément, ça renvoie peut-être à quelque chose d'un peu romancé. Après, j'ai pas du tout voulu faire un roman avec cet ouvrage-là. Mais c'est vrai que quand, dans certains parcours, dans certaines personnes qui reviennent, qu'on revoit régulièrement, à laquelle on s'attache aussi, parce qu'il y a aussi un côté très émotionnel lorsqu'on est en archive, qu'on voit, qu'on manipule des papiers très anciens, qu'on voit réapparaître plusieurs personnes, leur vie sur 10, 15, 20 ans, forcément, on s'attache, il y a une émotion qui se dégage. Et je ne sais pas si je suis romancière, mais je pense qu'il y aurait matière à faire des romans, il y aurait matière à faire des films, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont une vie peut-être qui dénote assez singulièrement avec l'idée qu'on peut se faire à l'époque de ce que c'est qu'être noir ou qu'être métisse en France. Et je pense que c'est sûr qu'il y a... Il y aurait matière à oui, roman. Est-ce que c'est à moi de l'écrire?
On en parlait, voilà, vous disiez, mais effectivement, c'est un matériau incroyable d'histoire qui dorme.
Hein, voilà. Ben alors, c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction.
Oui, vraiment, quand on le lit, on se dit... on aurait presque envie de vous dire racontez plus, mais bon, vous ne pouvez pas, vous êtes retenu. Alors, il faut qu'on ramène quand même à un aspect important. Pour beaucoup de gens, de lecteurs, que tu veux ou pas, la population noire à Bordeaux, c'est l'esclavage. Ouais. Hein. Et il y a ces choses qui pèsent sur Bordeaux quand même, parce que ça a longtemps été tenu dans un silence coupable, qui est « on n'en parle pas ». Malgré tout, une des bases de votre travail, c'est aussi la présence de l'esclavage à Bordeaux. Hein. Oui. Donc vous revenez là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça représente en France, l'esclavage? Et est-ce que Bordeaux est une ville qui peut vraiment dire qu'elle doit beaucoup à l'esclavage?
Ça, c'est sûr. Déjà, Bordeaux doit beaucoup à l'esclavage économiquement. Alors, Bordeaux, comme vous le savez peut-être, c'est pas le premier port de traite négrière en France. C'est le troisième ou quatrième, selon les chiffres.
Ouais, vous mettez avant La Rochelle.
C'est ça dépend. En fait, c'est avec La Rochelle, c'est un peu... Avec La Rochelle, ça se touche un peu. C'est pas le premier port de traite négrière. En revanche, c'est le premier port colonial. Et ça veut tout dire, en fait. Parce que toutes les richesses coloniales qui arrivent à Bordeaux, notamment les richesses, le sucre, le café, certaines productions agricoles, elles ne sont pas produites magiquement aux colonies. Elles sont produites par une situation qui a été mise en esclavage. Donc, de toute manière, de manière directe par la traite négrière ou de manière indirecte par le commerce colonial, Bordeaux est une ville qui a construit sa richesse au XVIIIe siècle sur
le modèle esclavagiste.
Sur le modèle esclavagiste.
L'exploitation de population.
Exactement. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Et du coup, c'est ça aussi qui est également intéressant, c'est de se rendre compte que c'était pas quelque chose de lointain pour ces populations-là, c'était pas quelque chose qui se passait uniquement très loin.
Oui, c'est pas abstrait de comme nous avec des téléphones fabriqués en Chine, on peut le savoir.
C'est pas abstrait du tout, d'une part parce qu'il y a beaucoup de Bordelais qui vivent dans les Antilles et qui font des allers-retours réguliers en France avec leur famille, et puis du coup, il y a aussi une population noire qui arrive en France dans une situation souvent d'esclavage. Et donc, c'est très visible pour tous les Bordelais qu'il y a des esclaves qui existent et qui font un travail, qui travaillent à Bordeaux. Même si, du coup, à Bordeaux, on va avoir une situation assez différente des Antilles, parce qu'aux Antilles, les populations mises en esclavage sont beaucoup employées dans les champs, dans des domaines agricoles, alors qu'à Bordeaux, forcément, on est dans une ville, donc ça va être beaucoup d'emplois domestiques, une population très majoritairement domestique. Donc là, c'est sûr qu'on a une différence avec la situation coloniale. Mais c'est sûr que Bordeaux est une ville coloniale, dans ce sens-là.
Alors, justement, vous parliez d'échanges, hein, c'est-à-dire que Bordeaux reçoit beaucoup. Est-ce qu'il reçoit beaucoup de gens de population noire? Pas tant que ça. En fait, Bordeaux n'est pas un port d'esclaves, par exemple. Hein. Il n'y a pas de trafic. Hein. C'est triangulaire. Finalement, les esclaves ne sont jamais à Bordeaux. Ils ne le sont que parce qu'ils ont été mis en esclavage dans les îles des Antilles et qu'ils reviennent à Bordeaux. Ils reviennent déjà. Ils ont déjà un rôle qui leur est attribué.
Avec quelques exceptions, ouais. Notamment les très jeunes garçons. Qui pour certains sont du coup déportés d'Afrique, passent assez peu de temps aux Antilles, voire pas du tout, dans le sens où pour certains ne descendent pas,
du
navire. Parce qu'en fait, ils vont être ce qu'on appelle. En fait, ils vont être retenus sur la cargaison par le capitaine. En gros, les capitaines de navires négriers avaient le droit à certains avantages, notamment la possibilité de pouvoir choisir parmi les esclaves un esclave qui retenait gratuitement et qui finissait le voyage avec eux. Et on a comme ça. C'est pas la majorité des cas, ça c'est sûr, mais de manière marginale, on a des jeunes esclaves, beaucoup des enfants et des adolescents, des garçons, qui arrivent en France en n'ayant quasiment pas connu les colonies antillaises, en fait, et qui sont débarqués en France en même temps que le capitaine qui les a gardés auprès de lui.
D'accord. Alors, précisément, la situation de l'esclavage. L'esclavage en France, est-ce qu'il est... c'est une question un peu naïve, mais qu'on ne sait pas nécessairement. Est-ce qu'il est légal?
Alors, la question de la légalité de l'esclavage...
Vous y revenez beaucoup. Hein.
Oui, j'y reviens beaucoup.
Cet aspect-là, parce que c'est assez surprenant.
Ouais. J'y reviens beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de fantasmes sur le fait que l'esclavage est interdit en France. Notamment, on cite toujours une législation médiévale en disant que le sol de France est un sol libre et que toute personne qui arrive en France est de fait libérée. Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que cette législation médiévale-là, elle a beaucoup évolué. Et que même si elle était encore appliquée au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, quand l'esclavage n'était pas encore aussi massivement utilisé par les Français notamment, cette législation elle va faire très rapidement être mise en cause au début du XVIIIe siècle par les lobbies esclavagistes qui, eux, n'ont pas intérêt à ce que les esclaves qu'on amène en France soient libérés du fait qu'ils arrivent en France. Et donc, en fait, ils vont faire pression sur l'administration française pour encadrer la venue des personnes noires en France et notamment s'assurer du fait que lorsqu'on amène un esclave en France, il ne soit pas automatiquement affranchi par le fait d'être arrivé en France. Et que donc cela, en fait, c'est des garde-fous. Et donc tout au long du XVIIIe siècle, on va avoir comme ça plusieurs législations. Une première en 1721, une deuxième en 1738, une troisième après en 1777, qui vont réglementer la venue des personnes noires en France et qui notamment vont assurer les propriétaires d'esclaves que l'esclave conserve son statut en repartant après aux colonies.
Oui, parce qu'il y a une inquiétude quand même, l'idée que... On se rappelle peu, mais le 18e, qui est le siècle de Montesquieu, mais malheureusement, qui est, on réglemente tout, hein, tout est soumis à des réglementations et qu'on ne peut pas débarquer et faire n'importe quoi. Mais alors, résultat, quand on arrive avec un esclave, souvent à Bordeaux, on ne le déclare pas comme tel parce qu'il y a un risque. Alors, amener quelqu'un à une population noire, c'est malgré tout, il y a une sorte de jeu. Vous parlez qu'il y a aussi de la fraude, il y a des trucs.
C'est ça. Alors, parce qu'en fait, c'est une législation un peu à double tranchant dans le sens où elle assure que les esclaves conservent leur statut d'esclave, mais c'est une assurance qui est conditionnée par le respect de certaines règles. Notamment, il ne faut pas rester plus d'un certain temps en France. Il faut aussi que le propriétaire d'esclaves se soumette à une série de déclarations officielles en indiquant qu'il est bienvenu avec un esclave, qu'il paye également...
Il a des droits à payer.
Hein, exactement, il a des droits à payer, etc. Sauf qu'il y a des propriétaires, eux, qui veulent un peu avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire pouvoir amener leur esclave en France, mais en même temps qu'on leur demande pas de rester avec un temps limité en France avec leur esclave, qu'on leur prenne pas d'argent, qu'on les surveille pas, parce que du fait qu'on déclare son esclave à l'administration, ça fait qu'on peut être après être surveillé. En tout cas, on peut après retracer le trajet et venir chercher des poux. Donc il y a plein de propriétaires qui ne veulent pas de ça et qui vont détourner la loi, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la loi dans le sens qu'ils vont pouvoir amener leur esclave en France et qu'il reste avec le statut d'esclave. Et en même temps, ils vont frauder pour éviter d'avoir un regard trop pesant d'administration. Et ça va plutôt bien marcher parce qu'il y en a plusieurs du coup, qui font partie de l'élite économique et sociale de la ville et qui ne s'embarrassent pas trop des déclarations, qui s'arrangent par des moyens un peu détournés pour faire arriver les esclaves en France, pour justement que l'administration ne vienne pas les chercher quelques années plus tard en leur disant « là, ça serait temps ». Que l'esclave reparte aux colonies, alors qu'ils n'ont pas du tout envie de ça.
Ça nous rappelle une chose qui est une évidence, c'est que Bordeaux est un port quand même, et le fait d'être un port fait qu'il y a une sorte d'exception portuaire, qui fait que tout ne se passe pas de la même façon, mais il y a surtout beaucoup de marins. Hein, il y a une population de marins, c'est un port. Alors, ce que j'ai redécouvert dans le livre, c'est qu'effectivement, les équipages sont des choses très mouvantes, et qu'on n'est pas marin à vie sur un bateau, etc. Mmh. Les capitaines changent, etc. Et il y a une population noire qui fait partie dans la marine. Alors, qu'on voit assez peu dans les représentations, mais pour cette population, c'est un moyen aussi de vivre sa vie, notamment, et de vivre sa vie d'affranchi. Alors, racontez-nous un peu, vous avez découvert un peu cette population et ces gens-là que vous avez étudiés.
C'est ça. Alors, c'est vrai que la question de la présence noire en métropole a beaucoup été étudiée dans les villes, en tant que telle, mais on a assez peu regardé leur travail laborieux sur les navires, alors que pour le coup, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment sur le continent américain. Et moi, ça m'intéressait aussi de regarder le travail de ces populations-là sur les bateaux bordelais, et notamment Marcus Rediker, qui est un célèbre historien américain, qui a montré assez vite qu'il y avait un vrai melting pot, en fait, sur les bateaux dans l'océan Atlantique en général, avec des personnes qui... par exemple, sur le bateau bordelais, on n'a pas que des Bordelais. On a des personnes qui viennent de Bordeaux, des personnes qui viennent de plus loin en France, des étrangers qui viennent de d'autres pays, et puis aussi, du coup, des personnes qui sont identifiées comme étant noires ou métisses. Et moi, ça m'intéressait vraiment aussi de replacer ces populations de marins noirs dans ce qu'on appelle l'espace atlantique. Donc l'idée qu'il y avait vraiment un espace sur l'Atlantique qui était très favorable à des mouvements de population très divers, avec des personnes qui faisaient des très longs trajets, qui débarquaient dans plusieurs pays.
Avec ses propres règles, en plus.
Exactement, avec ses propres règles.
Il y a une extraterritorialité sur la mer, en
quelque sorte. C'est ça, exactement. Il y a une espèce de reconstruction d'un monde complètement à part, qui a ses propres règles, ses propres méthodes de fonctionnement, des fois même son propre langage, parce qu'il y a des personnes qui viennent de plein de pays différents, donc ça parle pas tout le temps français sur un bateau. Et donc ça m'intéressait vraiment de replacer les populations noires au sein de ce mouvement plus général de marins qui viennent un peu de partout et qui vont un petit peu partout, et de montrer qu'également les gens de couleur ont tout à fait leur place dans cet espace,
et qui ont même des parcours assez surprenants parfois, hein, qui commencent en bas de l'échelle, mais qui peuvent progresser au sein de cet univers qui est quand même très invisible,
hein, oui.
Tellement invisible que même dans les reproductions, dans les films, etc., qu'on peut faire, il y a souvent le personnage noir, mais il y en aura un, c'est une exception. Alors que vous dites, dans les bateaux, il peut y en avoir beaucoup, peuvent avoir des vraies carrières, ils peuvent mener de vraies carrières.
C'est ça. Alors après, pour le coup, dans les bateaux bordelais, par exemple, souvent il n'y a qu'une personne noire, voire deux. C'est assez rare qu'il y en ait beaucoup plus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font carrière dans la marine, ou en tout cas qui vont rester plusieurs années en mer. Et puis il y en a même aussi qui vont s'affranchir par la mer. Il y a par exemple le cas de Dominique Toscan, qui est en fait un jeune Africain, donc qui est né en Afrique, et qui du coup va être mis en esclavage et employé dans les premiers temps comme interprète pour la traite négrière. C'est-à-dire que ses premiers voyages, il les fait toujours avec le statut d'esclave, et il va participer à la machine négrière, parce qu'il va aider à traduire en fait ce qui se passe à terre. Mais au bout d'un moment, Dominique Toscan parvient à amasser un petit pécule et surtout finit par être affranchi, parce qu'on estime qu'il a bien servi. Souvent on dit avec zèle et fidélité, ça c'est une remarque qui revient très souvent dans les archives. Et donc Dominique Toscan va faire un dernier voyage, cette fois-ci avec le statut de libre, et il va quitter définitivement Bordeaux, et il va aller aux Antilles, en étant une dernière fois marin sur le bateau. Et puis à partir de là, on perd sa trace. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs comme lui qui ont vraiment une petite carrière de 2, 3, 4, 5 ans auprès de plusieurs capitaines de navires, en gardant la même fonction, des fois en changeant de fonction entre-temps. Et c'est ça aussi qui est intéressant à regarder, c'est ces destins, tous très individuels, tous très différents, de se rendre compte qu'il n'y a pas un seul modèle de fonctionnement, mais que chacun, en fonction de ses possibilités, de ses capacités, de ses talents, se débrouiller pour mener sa barque.
Alors, ce que vous racontez dans le livre, et qui est vraiment passionnant, c'est les destins qui vous intéressent. Alors, une grande partie quand même de la population noire va... Alors, une petite partie dans la marine, la plus grande partie se retrouve malgré tout dans la domesticité. Oui. C'est-à-dire qu'on finalement, on passe d'esclave à affranchi, mais on reste dans la domesticité. Alors, quelle est la particularité de cette population? Elle est en grande partie domestique.
C'est ça. Alors, une fois, donc, vous avez bien compris qu'à Bordeaux, on a une grosse part de population domestique avec statut d'esclave. Et une fois que cette population devient libre, donc il y a le terme d'affranchi, qui revient. Et donc, lorsqu'on est affranchi, il y a plusieurs façons de gagner sa vie, puisqu'à ce moment-là, on n'est plus esclave, donc il faut bien se loger,
oui, d'ailleurs, se nourrir. On est affranchi, et souvent, on est affranchi sans aucun moyen.
Oui,
c'est-à-dire que l'affranchissement ne vous rend pas nécessairement libre d'évoluer, parce que vous n'avez pas de revenus, par
exemple.
C'est
ça. Surtout que l'affranchissement à Bordeaux, il arrive souvent très tard. C'est-à-dire qu'on va estimer, ce qui est d'ailleurs assez terrible à lire, je trouve.
C'est horrible, oui.
C'est qu'on les affranchit quand ils ont 50, 55 ans, 60 ans. Donc à un moment où c'est plus possible d'apprendre autre chose que ce qu'on sait déjà faire. Et donc beaucoup d'entre eux vont faire le choix de rester domestiques. Des fois même en restant domestiques auprès de la famille auprès duquel ils étaient esclaves auparavant, parfois en changeant de famille. Mais il est vrai que le débouché le plus naturel pour les anciens esclaves domestiques, c'est de rester domestique. Donc ça fait qu'il n'y a pas non plus... C'est pas parce qu'on est libre que d'un coup la vie devient rose, devient parfaitement.
Au contraire.
Devient très facile.
Il y a même des vies assez terribles
c'est
qui s'achèvent dans une sorte de misère.
C'est ça. Il y en a beaucoup qui sont affranchis, des fois même quand ils sont âgés, quand ils sont infirmes aussi, et on les affranchit, et du coup ils n'ont plus de ressources. Certains tombent dans la misère, dans la mendicité. Certains parviennent, parce qu'ils ont des contacts avec le reste de la communauté noire, à avoir un secours d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que l'affranchissement, c'est pas synonyme d'une facilité, en tout cas, derrière. Et on se rend bien compte que, notamment pour les affranchis âgés, c'est vraiment compliqué de se reconvertir. En tout cas, il y a une vraie difficulté à trouver sa place, alors que ça fait 40, des fois, depuis sa naissance.
Il y a quand même une belle hypocrisie dans l'affranchissement.
Oui,
tout
à fait.
Il y a un cynisme des familles possédantes qui est très large. Oui. Alors, on parle des domestiques. Alors, vous avez évoqué le terme des libres de couleur.
Oui. Hein,
ça, c'est une expression qui est importante, une formule qui est importante, que je connaissais assez mal, moi, hein, qui est, finalement, il y a une catégorie de la population qui est considérée comme libre de couleur, qui a son propre statut, ses propres codes, son propre mode de vie. Est-ce qu'ils sont vraiment libres, déjà? Est-ce que ce terme libre de couleur ne recouvre pas des situations très différentes?
Alors, les libres de couleur, en fait, ça désigne deux situations. La première, celle qu'on a déjà évoquée, c'est la situation des affranchis, donc les personnes qui ont été auparavant esclaves et qui obtiennent leur liberté d'une manière ou d'une autre, souvent parce que le propriétaire d'esclaves accorde cette liberté, aussi des fois parce que certains vont faire des procès à leur maître en disant qu'ils n'ont pas respecté la législation française, que ça fait trop longtemps qu'ils sont en France, etc. Et ils vont obtenir leur liberté comme cela.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des esclaves susceptibles d'aller en justice,
oui.
Quand même. Ça
oui.
paraît étonnant, c'est-à-dire oui. d'échapper à l'emprise pour aller réclamer justice.
Oui, mais c'est vraiment une minorité parce que du coup, pour aller en justice, déjà, il faut connaître la législation. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde.
Faut être aidé.
Il faut aussi avoir des réseaux, c'est-à-dire des avocats qui vont pouvoir nous aider, enfin, aider les personnes. Donc, tout ça, c'est vraiment une minorité. Mais en tout cas, on a donc ce premier groupe d'affranchis de personnes qui ont connu l'esclavage. Le deuxième groupe qui est dans le groupe plus général des libres de couleur, c'est ce qu'on appelle les libres de naissance. Et donc, les libres de naissance, c'est des personnes qui sont identifiées comme étant métisses, qui ont souvent un parent blanc, un père blanc d'ailleurs, et puis une mère métisse ou noire, mais qui naissent en étant déjà libres parce que leur mère est déjà libre, elle aussi. Et donc, les libres de couleur, c'est vraiment toute cette diversité de population. Et donc, on se rend bien compte aussi qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes destinées et le même degré de liberté. C'est-à-dire qu'entre un affranchi, qui, comme on l'a dit plus tôt, a été affranchi très tardivement, qui est toujours domestique et qui est toujours employé chez la famille du maître, on se doute bien que, en tout cas, il n'est pas pleinement libre, il reste encore très, très dépendant de cette famille-là. Alors que de l'autre côté du sceptre des libres de couleur, on a des personnes qui naissent déjà libres, qui sont métisses, qui vont hériter de leur père propriétaire, qui vont avoir leur propriété aux colonies, leurs esclaves aux colonies. Et donc, on a vraiment un gouffre énorme entre ces extrêmes de population. Et puis, entre les affranchis domestiques et les libres de couleur.
Qui s'ignorent, d'ailleurs, un peu.
Oui, hein, qui s'ignorent.
C'est,
oui,
pas, c'est pas la même communauté.
Non, hein. C'est deux
classes.
À part.
Ouais,
tout à fait.
C'est des classes.
Ouais. Bah, en tout cas, jusqu'à la Révolution, les libres de naissance, notamment, pour leur survie personnelle, eux, ils ont intérêt à se détacher vraiment du groupe d'esclaves. Ils n'ont pas du tout envie qu'on les renvoie à ces origines-là. Et ils veulent vraiment se rattacher aux Blancs par leur éducation, par leur code, par leur mode de vie.
Par leur code vestimentaire, par leur mode, etc., leur mode de vie.
Ouais. Et au milieu de tout ça, on a des affranchis qui ne sont pas domestiques, qui ont souvent... ou des libres de naissance, d'ailleurs, qui sont artisans.
Oui,
donc ça fait qu'ils ont une certaine indépendance économique.
Ils ont certains métiers. Alors, ça, vous l'avez repéré, c'est assez étonnant de voir qu'il y a... Les populations noires ont des métiers de prédilection.
Oui.
Alors, ça, vous racontez-nous, vous les avez étudiés.
Oui.
Il y a des spécialités, en quelque sorte.
Alors, en tout cas, il y a certains artisanats vers lesquels se dirigent plus ou moins les personnes noires. Notamment, il y a deux artisanats qui sont vraiment prédominants à Bordeaux, c'est la cuisine et la perruquerie. Et
ça, c'est la perruquerie, hein, c'est important de dire que c'est une ville de perruques, hein, quand même.
Oui. Voilà. Il y a beaucoup de perruquiers. Et en fait, ça s'explique assez facilement parce que, tout simplement, c'était des activités qu'ils faisaient auparavant en tant que domestiques esclaves. Et donc, une fois qu'ils sont plus esclaves et qu'ils arrivent à ne plus être domestiques rattachés à une maison, ils vont remettre les talents qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire savoir cuisiner ou savoir coiffer, mais en le faisant de manière autonome avec leur propre commerce, on va dire. Donc ça, c'est vraiment les métiers qu'on retrouve le plus souvent, avec d'ailleurs des très belles destinées, celles que je cite tout le temps, donc forcément,
il faut que je la cite ce soir. Ah oui, il y a quelques vedettes dans le livre qui reviennent.
Celle de Casimir Fidèle. Donc Casimir Fidèle, il est né en Afrique, sur la Côte d'Or, qui correspond actuellement à peu près au Ghana. Et en fait, il est déporté à l'âge de 8 ans. Lui, pour le coup, il fait partie de ces personnes-là qui ne débarquent pas aux Antilles, c'est-à-dire qu'il finit le circuit de traite négrière à Nantes. Il est baptisé à Nantes. Et après, en gros, de ses 8 ans début de la trentaine d'années, il va être formé à la cuisine française. Il va être employé comme cuisinier. Et puis, à l'âge, il me semble, vers 40 ans à peu près, il est affranchi. Et à ce moment-là, il va mettre, du coup, ses talents de cuisinier à son propre service et plus au service des autres. Il va créer... En tout cas, il va reprendre à Bordeaux un hôtel qui est très connu, qui est l'hôtel de l'Empereur, actuellement sur le cours Georges Clémenceau. Et il va diriger cet hôtel pendant 15 ans.
C'est une réussite vraiment
incroyable. Et c'est une très grande réussite parce qu'il va, du coup, ça va faire qu'il va être riche, très aisé socialement.
Il est très entreprenant en plus.
Très entreprenant, il est très lié avec les élites blanches de la ville. C'est un hôtel qui est très couru, où souvent on ne trouve pas de place, où il se passe plein de choses, il y a des concerts, il y a des jeux d'argent, enfin. Voilà, c'est un hôtel qu'il fait vivre véritablement. Et à la fin de sa vie, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé après avoir soutenu ma thèse, donc qui est un inédit de ce livre-là. Il va en fait représenter, lors de la Révolution française, les citoyens de couleur de Bordeaux à Paris, et notamment lors de l'abolition de l'esclavage. Il va faire partie d'une délégation de citoyens de couleur qui va monter à Paris pour féliciter l'Assemblée nationale de l'abolition de l'esclavage. Et il va rester à Paris jusqu'à sa mort, probablement pour continuer à militer ou avoir une activité, en tout cas intellectuelle, au moment où il y a tous ces débats autour du statut des personnes noires, du statut des esclaves et de l'abolition de l'esclavage.
Alors qu'on aurait pu lui imaginer un parcours de possédant, etc., lui, au contraire, fait la bascule de la revendication et de quitter l'aide. Parce qu'on suit son parcours, c'est quand même quelqu'un qui investit, qui a une belle-mère, qui lui prête de l'argent. Enfin, il y a des histoires assez incroyables, hein, quand même. Ouais. C'est pour ça qu'on dirait un roman de Balzac, hein, quand même. Il investit, on lui prête, il place, il achète des maisons, etc. Mm-hmm. Mais au bout d'un moment, malgré tout, il y a comme une sorte de transformation chez lui qui fait qu'il veut représenter cette population à un moment où il peut se passer quelque chose. Alors, je vais vite parce que le livre parle de plein de choses. Hein. C'est vraiment c'est assez impressionnant. Mais il y a notamment, vous vous intéressez au 18e siècle, mais le 18e siècle, c'est la Révolution.
Oui. Hein.
Et la Révolution, est-ce que c'est un moment important à Bordeaux pour cette population?
Oui, tout à fait. La Révolution, c'est un moment important pour plein de raisons. Et notamment à Bordeaux, il y a des débats qui sont très prégnants. Et c'est les débats autour de l'esclavage, de son abolition, et puis aussi globalement sur le statut des personnes de couleur en France, parce que très rapidement, dès 1789, les libres de couleur vont revendiquer le fait d'avoir l'égalité civique avec les Blancs. Et tous ces débats-là, ils sont très prégnants à Bordeaux. Et ils sont d'ailleurs prégnants dans toutes les couches de la population, c'est-à-dire que les lobbies coloniaux, forcément, à Bordeaux, se penchent sur ces questions et vont revendiquer le fait de ne pas abolir l'esclavage, de ne pas donner les mêmes droits civiques aux personnes blanches et aux personnes noires. Mais on observe aussi une diffusion de tous ces débats à des sphères plus populaires. Et par exemple, en 1789, dès l'été 89, on a une manifestation de domestiques blancs qui manifestent pour demander plein de choses, comme une retraite, enfin voilà, plein de droits, et également qui manifestent parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de domestiques noirs à Bordeaux et que ça leur vole du travail.
Ça paraît juste insensé, hein, de ce genre de manifestation. Voilà.
Donc,
c'est une sorte de gilet jaune avant la lettre, mais voilà.
En tout cas, il y a une vraie ébullition autour de ces questions-là, qui touchent toutes les catégories de la société, aussi parce qu'à Bordeaux, il y a des représentants de la Société des Amis des Noirs, donc ça, c'est une société qui est basée à Paris, mais on a quelques représentants qui sont bordelais, donc on imagine qu'ils vont aider aussi à diffuser ces idées-là. Et donc, on sent que ça bouillonne, et ça bouillonne d'autant plus qu'au même moment dans les colonies, la Révolution, c'est un grand moment de changement politique, notamment à Saint-Domingue, qui est l'actuel Haïti, où on va avoir pas mal de révoltes d'esclaves, de revendications très poussées, pareil en Martinique ou en Guadeloupe. Et toutes ces revendications-là, on est au courant qu'elles existent à Bordeaux, parce qu'il y a des lettres qui s'échangent entre les colonies et Bordeaux, qui est donc encore colonial.
Les gens de Saint-Domingue...
Donc il y a des personnes qui circulent entre les deux espaces et qui rapportent qu'aux colonies, ça bouge aussi. Et vu que Bordeaux, je l'ai dit au début, est le premier port français, notamment le premier port colonial français, toutes ces nouvelles-là, elles sont connues après quelques semaines de navigation. Donc on sait toute l'ébullition qu'il y a à la fois à Paris et l'ébullition qu'il y a aux colonies.
Oui, il y a un double mouvement.
C'est ça.
Le mouvement parisien et le mouvement quand même assez peu connu. Tu fais que ce qui bouge aux Antilles a des conséquences à Bordeaux même.
C'est ça. Et donc Bordeaux est vraiment la croisée de ces révolutions qui sont vraiment globales à la fois à Paris et aux Antilles. Et c'est ce qui explique aussi qu'on a cette éruption, par exemple, de la manifestation en 1689, qu'on a aussi à l'heure actuelle, en tout cas dans mes recherches, c'est une très rare occurrence que j'ai de communautés noires qui s'affirment comme communautés politiques. En étant du coup des citoyens de couleur qui vont à la mairie bordelaise, ce qui à l'époque est la mairie bordelaise, qui après vont à Paris. Là, on a vraiment une spécificité en tout cas qui pour l'instant n'est connue que pour Bordeaux. Après, que si on a autant de temps à consacrer à d'autres villes, on trouvera les mêmes émanations.
Sans doute, ouais.
Mais en tout cas, c'était assez passionnant de voir que concrètement tous ces débats-là, ils résonnent beaucoup à Bordeaux aussi d'ailleurs parce que un des chefs de file des libres de couleur à Paris, qui s'appelle Julien Raymond, a une sœur qui habitent à Bordeaux. Et ils sont en liaison tous les deux, ils s'envoient des lettres, ils s'échangent de l'argent. Donc on se doute bien aussi qu'il y a plein de choses qui se passent par le biais de famille, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des familles qui habitent aux Antilles, des familles de libres de couleur qui sont un peu dispersées partout en France. Et que donc tout ça, ça participe aussi juste d'être au courant de ce qui se passe. Et du coup, de la politisation.
Et puis il y a les révolutions en Haïti, enfin à Saint-Domingue, qui fait qu'il va y avoir des gros bouleversements. Certains révolutionnaires sont originaires de Bordeaux, d'ailleurs. Mm-hmm. Bordeaux est aussi un ferment de révolution. Et il va se passer un gros choc, qui est qu'il va y avoir même des déplacements de population, et Bordeaux va se retrouver terre d'asile de gens qui partent, qui quittent les Antilles.
C'est ça.
D'un coup, et là, alors ça, je n'avais jamais entendu parler. Bordeaux se retrouve avec des réfugiés.
C'est ça, tout à fait. Des réfugiés des colonies. Alors, c'est des réfugiés qui sont blancs et noirs, puisqu'on a à la fois des personnes qui fuient les conflits, notamment parce qu'ils ont perdu, par exemple, leur commerce. Et donc, on retrouve cette population-là, des personnes blanches qui arrivent avec leurs esclaves, et puis aussi pas mal de personnes qui vivaient en Haïti, notamment, qui avaient leur propre commerce, des personnes noires ou métisses, et qui, en fait, fuient la colonie parce que c'est un épisode de violence assez importante, et du coup, qui trouvent refuge à Bordeaux, et qui, du coup, vont vivre à Bordeaux pendant quelques années. Et donc, ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est comment la municipalité essaye de s'organiser pour les loger, parce qu'ils sont...
Sans vraiment y arriver, d'ailleurs. Hein,
sans vraiment y arriver, avec, du coup, d'ailleurs, clairement, un pis-aller qui est trouvé, c'est-à-dire de loger la plupart dans des...
Dans des hangars,
mais en tout cas, c'est un ancien couvent qui est complètement vétuste. Et de nouveau, c'est assez triste de se rendre compte que dans... ce couvent-là, c'est surtout des personnes noires qui sont logées, alors que les personnes blanches, elles ne sont pas logées à la même enseigne. Souvent, elles ont droit à des cellules ou des chambres plus grandes où elles ne sont pas logées là. Et vraiment, les personnes noires, souvent, elles héritent
dans les pires conditions. De l'absence de revenus, etc.
C'est ça. Voilà. Donc après, il y a aussi on essaye de mettre en place de leur donner un petit subside, en tout cas un petit salaire pour qu'ils puissent vivre parce qu'ils ont tout perdu en quittant Haïti. Mais ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que cette population réfugiée-là, elle a quand même qu'une idée, c'est de repartir dès que c'est possible et dès que ça s'est calmé.
Elle ne tient pas à s'assimiler, hein. C'est pas une population, ouais. C'est pas une sorte d'émigration.
Non, c'est assez bref, en fait. Ouais. En gros, entre les années 1795, on va dire, et les moments où on peut rétablir et en fait, de 1795 au moment où Haïti devient indépendante, à partir du moment où Haïti devient indépendante, on observe qu'il y a des liaisons de correspondance qui sont remises en place entre les populations noires des Antilles et de Bordeaux, et d'ailleurs du reste de la France, pour essayer justement de rapatrier cette population-là, qui, elle, veut revenir absolument en Haïti. Et de 1804 à 1816, ce retour-là est très compliqué parce que, en fait, normalement, on n'a pas le droit d'aller en Haïti parce qu'il y a une rupture des relations diplomatiques et des relations commerciales. Et donc, on tente de revenir en Haïti de manière un peu illégale. Et puis, à partir de 1816, les relations commerciales reprennent avec Haïti. Et à ce moment-là, on observe qu'une grande partie des réfugiés à Bordeaux sautent sur l'occasion pour revenir chez eux, en fait.
Alors, il y a énormément de choses à aborder. Hein. Votre livre est assez incroyable là-dessus. Hein. Vous évoquez aussi en partie le 19e, même si ce n'est pas le sujet du livre, parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Enfin, il y a des familles qui s'installent. Est-ce que vous avez été tenté parfois de chercher 50, 60 ans plus tard ce qu'étaient devenus les descendants de tel ou un tel? Ou est-ce que ça devient difficile, à un moment ou à un autre, de suivre les gens? Ou ce n'était pas vraiment votre objet? Ou c'est pour le tome 2?
Alors, c'est une vraie question que j'ai essayé de traiter, mais qui est très compliquée. Parce qu'en fait, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, dans le sens où on sait, par exemple, qu'ils se marient, on sait qu'ils ont des enfants, mais on ne sait pas si les enfants se marient, on ne sait pas si les enfants meurent, on ne sait pas si les enfants ont des enfants. Donc en fait, ça complique vraiment le travail d'archives. Et moi, c'est un travail que j'ai pu faire de manière très, très ponctuelle, notamment en m'appuyant sur une base collaborative de généalogie, qui est Généanet, où... Des fois, de manière miraculeuse, j'ai pu retrouver certaines personnes noires que moi j'avais repérées dans mes archives et qui ont été trouvées, mais complètement par hasard, ou juste par des généalogistes qui faisaient leur travail de généalogiste et qui, du coup, ont rentré ces personnes-là dans la base en mettant, du coup, tous leurs descendants. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu faire le pont, et notamment sur la famille, du coup, de Casimir Fidèle, que j'ai beaucoup suivi parce que, notamment, il a eu un fils avec une femme blanche à Bordeaux. Et son fils, on peut le tracer assez facilement, je connais dans les années 1820. On sait qu'il a une femme, etc. Et ce fils-là, je l'ai retrouvé dans la base Généanet. Et ce qui fait que j'ai les descendants aujourd'hui. Je sais qui sont les descendants en partie de Casimir Fidèle.
Il y en a peut-être dans cette salle.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, du coup, ses descendants, ils sont blancs, parce que, en fait, le fils de Casimir Fidèle, il s'est installé en Lorraine à partir de 30-40 ans, et tous ses enfants se sont mariés avec des personnes blanches, et donc aujourd'hui, les descendants de Casimir Fidèle
ont peut-être l'accent lorrain.
Ils sont blancs. Ils sont lorrains. Voilà. Et donc c'est assez fascinant. Et d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un article dans Le Monde il y a quelques mois, où justement, on mettait en miroir, moi, mes recherches de mon côté, et de l'autre côté également, les descendants de Casimir Fidèle, la mémoire qu'ils avaient, ou pas, la mémoire, qu'ils avaient de cet ancêtre africain.
Parce que pour y révéler, tout d'un coup, des gens découvrir qu'ils ont une ascendance noire, qu'ils ne soupçonnaient pas.
Alors, pour certains, ça a été une surprise, effectivement. Pour cette famille-là, en l'occurrence, c'était pas une grosse surprise, parce qu'il y avait quand même une mythologie familiale qui disait qu'à la 7e génération, il y a eu un ancêtre africain. Et donc, ça restait quand même dans la famille, mais ils n'avaient pas de photos, pas d'archives pour le prouver. C'était de l'ordre, oui, c'était de l'ordre du mythe familial. Mais après, je pensais à d'autres familles, pour le coup, là, quand j'ai contacté, des fois, n'étaient pas intéressés. Soit ça arrivait aussi comme une surprise pour eux.
C'est comme quand on fait l'analyse ADN et qu'on y trouve des choses étonnantes. Et voilà. On devrait faire l'analyse ADN plus schématiquement des gens. Voilà. Bon, on pourrait aborder le sujet. Le livre est vraiment, je dis pour l'avoir lu en long, large et en travers, c'est un livre vraiment passionnant parce qu'il aborde des tas de sujets. Il raconte Bordeaux comme on l'a peu raconté. Hein. C'est avec cet à côté, avec tout d'un coup, on se concentre sur des gens qu'on ne voit pas habituellement et c'est étonnant. Vous parlez même aussi de la campagne. De la ruralité, parce que c'est Bordeaux, mais c'est aussi la région.
Oui.
Et vous avez fait de très belles découvertes, hein, de destins, de familles noires à Jeun, je crois me rappeler, enfin dans des endroits assez improbables où des gens ont fait souche.
C'est ça.
Et qui continuent. Alors, je ne vais pas dévoiler parce qu'il y a quand même c'est ça qui est étonnant pour un livre d'historienne, c'est que c'est un réservoir, comme je disais, d'histoire, de destin. Hein. Et puis ce que ça provoque surtout chez nous, c'est une sorte de rêverie. De dire qu'est-ce qui a pu leur arriver, qu'est-ce qu'on peut reconstituer de ces destins étranges, gens qui ont été, qui partaient de la Corne de l'Afrique et qui ont retrouvé à la tête d'un hôtel ou qui se faisaient bâtir des maisons du côté de Saint-Seurin, ou dont on suit les aventures immobilières. Enfin, il y a des épisodes immobiliers assez saisissants dans votre livre. Voilà. Donc on pourra en parler longtemps et je laisse au public le soin de découvrir ces aspects-là de cette recherche. Et voilà. Alors le temps a filé, on pourra en parler des heures. Et je voulais remercier Julie de s'être prêtée aux questions. Vous pourrez la voir après pour en parler. Voilà, je vous invite donc à consulter, à acheter, à lire Bordeaux Métis, qui, à mon avis, est un joli virage dans l'histoire de ces populations et dans l'histoire de Bordeaux même, parce que je pense qu'on comprend mieux certaines choses de Bordeaux en découvrant ce qu'on ne voyait pas. Merci beaucoup.
C'est ça. Merci à vous.